T'aimes le vivant ? Récolte l'urticaire. Qui sème le vivant ? Récolte l'urticaire.
Bonjour à vous, graines de mauvaise herbe. Vous êtes sur Radio Escapade, il est 9h30 passé et dans les studios, je me prépare pour vous parler du vivant. Dans cette émission, depuis quelques épisodes maintenant, je parle d'écologie en collant bord à bord des bouts d'histoire, des végétaux, des champignons, pas encore des insectes, des vertébrés et des machins trucs microscopiques. Ce sont des récits de trajectoire de nos compagnons non humains, vivants, proliférants ou menacés, qui s'entremêlent à nos mondes d'humains et qui les chamboulent, qui les entrepercutent et parfois c'est pour... le plus grand de notre bonheur et parfois c'est pour le plus grand malheur. Je m'inspire librement des méthodes de l'ethnobiologie et de l'histoire environnementale. Et je vais vous emmener explorer les marges de notre monde civilisé, ses coulisses et ses artères vitales. Aujourd'hui, je voulais vous parler des plantes, mais des plantes ordinaires, des herbes, des mauvaises herbes, ces végétaux éphémères, qui disparaissent puis réapparaissent, ces végétaux évanescents qui passent la moitié de notre temps d'humain sous forme de graines à attendre leur moment. Et l'autre moitié sous forme de végétaux pressés qui travaillent à produire des graines. Il s'agit pour vous, auditeurs, de vous laisser glisser au fil de mes réflexions, guidées ce matin bien froid de janvier Cévenol. Par les herbes. Ce sont des histoires de trucs vivants, banals ou si peu banals, quotidiens, pour ce vivant banal, qui nous raconte des choses sur nos vies à nous, nous qui sommes vivants, sur une planète vivante remplie de vie. Voilà. Alors, cette histoire, elle peut commencer vraiment partout. Parce que loin des pôles, comme nous le sommes, dans nos seven tristounes d'hiver, il y a des herbes partout. Elles craquent le bitume, envahissent les fossés ou tapissent vos jolies pelouses. Chez les végétaux, les plantes annuelles sont ces végétaux saisonniers qui vivent par intermittence. On a souvent tendance à se représenter le végétal comme le règne de l'immobile. Après tout, il est accroché aux cailloux auxquels il suce la moelle pour pouvoir vivre. Et pourtant, les végétaux, ils explorent. Ils fouillent le sol avec leurs racines, mais aussi avec leurs stolons, ces petits clones qui sont envoyés en éclaireur un peu plus loin que la plante mère. Et puis, pour les végétaux qui produisent des graines, connues sous le nom... très jolie d'angiosperme, les possibilités de voyage se décuplent. Ils colonisent et voyagent avec leurs graines, qu'ils catapultent ou qu'ils confient au vent. Les graines font du stop aussi, elles s'accrochent aux animaux, humains et non humains, qui traversent leurs habitats. Elles naviguent en se transformant en flotteurs et elles traversent les cours d'eau, les mers, les océans. Et pour conclure cette introduction, je voulais avec vous écouter ce premier son de Steve Wonder, Secret Life of Plant, qui illustrait bien le thème de la matinée.
The nucleus of all begins inside a tiny seed, and what we see as insignificant provides the cure whose air we breathe. But who am I to doubt or question the inevitable being? For these are but a few A species small, larger than the eye can see, or larger than most living things. And yet we take from it without consent our shelter, food, a pillarment. But who am I to doubt or question the inevitable being? Yourself, where would you be without them? You will find you will not. And some believe antennas are the leaves that spans beyond our galaxy. They've been, they are, and probably will be, who are the mediocrity. But who am I to doubt or question the inevitable being?
Après cette mélodie à l'eau de la vie secrète des plantes, et bien, il me faut continuer un petit peu mes recherches et mes réflexions, et pour percer un peu mieux la vie secrète de ces plantes, je suis allée interroger des copaines qui travaillent avec les végétaux, ou enfin sur les végétaux, ou enfin bref, ils utilisent des végétaux au quotidien ou pour leurs expériences. Et ben, je leur ai demandé de m'aider à donner corps à ces végétaux que j'ai commencé par décrire si évanescents. Et dont pourtant, aujourd'hui, ben, je voudrais vous parler. Alors, je vous laisse écouter.
Ben, la graine, c'est un végétal en devenir, c'est un être vivant.
C'est un embryon, en fait. La minuscule plante à l'intérieur est une petite graine.
Et un pépin de tomate, c'est une graine. Dans ta pomme, là, le pépin, c'est un petit bébé qui est vivant et qui va pouvoir peut-être donner un pommier. Dans la pomme, il y a plusieurs graines qui pourraient devenir des pommiers.
Les graines autour de nous, on peut en trouver assez facilement. Dans le monde du végétal, les angiospermes, qui font partie des spermatophytes, donc les végétaux qui produisent des graines, pour les angiospermes, on est à 385 000 espèces.
Il y a des plantes qui ont différentes stratégies de reproduction en mode « Oh, je vais faire plein de graines !»
C'est les pissenlits.
Il y a d'autres stratégies de reproduction où ça va être la grosse graine, très belle, très forte, qui va être très soignée et tout. C'est les cocofesses, la plus grosse graine du monde. C'est vraiment une sorte de noix très 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 grosse, comme une forme de fesse.
Il y a des subtilités, mais ce qu'on appelle les akènes, par exemple, qu'on retrouve sur les fleurs de pissenlit, c'est les petites taches aussi dans les fraises, des fraisiers, c'est ça les akènes. Voilà, ça se dissémine par le vent. Donc oui, les végétaux peuvent se déplacer par le vent, ils se déplacent aussi par l'activité humaine. L'albizia dont je parlais, cet arbre à soie avec ses jolies fleurs blanches, un peu rosées ou rouges parfois, ou bleutées. C'est pour ça qu'il s'appelle le Mimosa de Constantinople. C'était plutôt Asie de l'Est et du Sud-Est. Et aujourd'hui, il y en a partout autour de chez nous. Donc ils ont été déplacés parce qu'on a déplacé des végétaux, soit volontairement, soit involontairement. Les jardins botaniques, qui sont des héritages... sont des choses qu'on a sur les bras, qui sont des moments de, des empires et du colonialisme, et du post, ou pas du post, du néocolonialisme. On a apporté plein d'espèces en portant que c'était cool. Puis, les espèces qui viennent de ces jardins botaniques sont rarement décrétées comme invasives. Celles qui ont été ramenées par les personnes plus pauvres ou d'autres modes moins, moins impérialistes peuvent être classées comme invasives ou mauvaises herbes. Enfin voilà, les végétaux, oui, se déplacent et ils se déplacent avec nous. Il y a beaucoup de graines qu'on n'a pas le droit d'échanger pour des règles territoriales à l'échelle régionale, continentale, souvent sous couvert de dire c'est pour protéger la biodiversité, pour éviter les espèces invasives. Il n'y a pas que ça, il y a des intérêts commerciaux et industriels. Voilà, il existe des graines sous licence libre en Amérique du Nord. Légalement, je ne peux pas les obtenir juste comme si on envoyait une carte postale aujourd'hui en France ou en Belgique. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là, du matériel qu'on met dans un marché, ça ne me va pas beaucoup.
Vous venez d'entendre Xavier et Anouk, et on va avoir l'occasion de les rencontrer et de rediscuter avec eux plus loin dans l'émission. Mais merci à eux de nous avoir aidés à commencer et pousser un peu plus loin cette réflexion sur mais qu'est-ce que ces végétaux annuels et qu'est-ce qu'une une graine. Oui, finalement, qu'est-ce qu'une graine? Bah, c'est un objet assez fascinant. Dans chaque graine, il y a une plantule, c'est-à-dire une plante en kit. Il y a une mini-racine prête à se déployer. C'est une racine néoformée. Et il y a une mini-tige avec ses ou sa mini-feuille. C'est des feuilles néoformées. Et puis, il y a des réserves. Parce que, eh ben, au début, la racine et la mini-racine et les mini-feuilles, bah, ils sont pas fonctionnels. Et donc, pour lancer la machine, il y a des réserves, des stocks, du bonus. À un moment donné, quand il a fait assez froid, quand il fait assez chaud, quand il fait assez humide, ou au contraire, quand il y a un feu qui a tout brûlé à la surface, à un moment, à chaque fois différent, en tout cas, chaque fois différent pour les espèces, ou même entre les individus d'une espèce, et ben, y a un moment. Et à ce moment-là, il y a un mécanisme chimique qui se déclenche, et paf, le kit, il se déclenche. La racine, la mini-racine, elle se met à pomper, puis à grandir. Et la tige, mini-tige, elle se met à chercher la lumière et à déployer ces mini-feuilles qui sont pas encore tout à fait des feuilles. C'est des petits cotylédons, c'est des feuilles un petit peu grassouillettes, un petit peu qui cherchent encore, quoi. Et la graine, c'est comme un espèce de vivant à l'état de dormance. C'est un moment stratégique où le couvert végétal il redéploie et ben son occupation de l'espace. Comme il est en dormance, eh ben, il n'est plus rattaché à des besoins vitaux. Il peut rouler, voler, nager. Dans la conquête de l'espace, la vie sous forme d'herbe, du végétal, c'est qu'une étape dans la conquête. Une étape du vivant un peu plus exubérante, une espèce de port en attendant d'aller un petit peu plus loin. Vous entendez ce son ? Vous entendez ? C'est le son que Pauline Micot compose à l'aide de ses machines et à l'aide des plantes. Elle a des capteurs dans les plantes et qui reçoivent les signaux électriques qui traversent les plantes et ils sont traduits par les machines. Et Pauline, elle compose. On écoute encore un peu le bruit de la forme herbeuse du végétal, celle qui est vivante, exubérante. Vous pouvez retrouver les compositions de Pauline Micot sur SoundCloud, sur Instagram, sur Facebook. Et maintenant qu'on a un peu appris à faire connaissance avec le végétal, on va aller plus loin dans nos réflexions. Et cette fois-ci, on va aller frapper du côté de l'ambroisie. Donc, l'ambroisie, c'est une plante vivace, une plante qui envahit, selon les termes de la Haute Autorité sanitaire française, les espaces, et notamment les espaces autour de nos habitations. Le pollen de l'ambroisie est particulièrement allergène, et au printemps, dans les régions qui sont particulièrement touchées par la conquête de l'ambroisie, ça pose des vrais problèmes sanitaires. Il y a donc des programmes entiers d'essais de lutte contre la propagation de cette vivace qui, vous le verrez, a cette difficulté, qui pose cette difficulté aux gens qui essaient de lutter contre elle, qui est qu'elle est à la fois un végétal vivant et observable et à la fois une graine évanescente invisible. En particulier, j'ai choisi l'ambroisie parce que j'ai été très inspirée par les travaux de Clarine Julienne, une anthropologue qui a justement essayé de suivre ses responsables du programme de lutte contre l'ambroisie et qui, à travers du coup, cette ethnographie, nous raconte quelque chose de ces végétaux. Elle pose dans son article, elle pose en modèle l'ambroisie contre un autre modèle du végétal qui est celui de la renouée du Japon, une plante ornementale plutôt ligneuse, donc enfin pérenne, qui s'est échappée des jardins d'acclimatation et qui est devenue le cauchemar des jardiniers. Donc il y a d'un côté l'ambroisie, cette plante annuelle dont le pollen est très allergène, et de l'autre côté, la renouée du Japon, ce géant du végétal qui effraie les gestionnaires. Et elle nous raconte, et moi, je vous lis son article, « La lutte contre l'ambroisie, gestion biosécuritaire d'une espèce invasive ». C'est un article de 2018 paru dans la Revue d'anthropologie des connaissances. On l'écoute. On retrouve entre la renouée d'une part et l'ambroisie, d'autre part, l'opposition d'Audricourt, un anthropologue très connu par les ethnobotanistes. Donc l'opposition d'Audricourt entre d'une part les plantes vivaces à la reproduction clonale et les plantes annuelles à la reproduction sexuée. Dans les deux cas de pratiques agricoles comparées par Audricourt, ces modes distincts de dispersion et de multiplication favorisaient différentes méthodes de culture. Parallèlement, dans le cadre de la gestion des espèces invasives, qui intéresse donc l'auteur de l'article, il favorise différentes méthodes de lutte. Alors que l'ambroisie disparaît à la fin de son cycle, la renouée est une plante pérenne dont la souche peut survivre pendant de nombreuses années. Cette dernière se reproduit par bouturage à partir de son propre corps qui s'étend, se fragmente et se multiplie. Les renouées présentes en France, en Europe et aux États-Unis feraient partie d'un seul et même clone, selon certaines études de biologistes. La lutte contre la renouée se cristallise dans la confrontation avec un corps végétal. Celui-ci doit être réduit, fractionné, détaché, discipliné par l'action technique. La plante est avant tout problématique dans sa matérialité. À l'inverse, l'ambroisie est facilement arrachée. Elle n'est pas compétitive et disparaît lorsque le couvert végétal est important. Son corps est bien plus évanescent que celui de la renouée. À l'origine, c'est l'accumulation de pollen, donc d'ambroisie, qui constitue la source du risque sanitaire. Puis, la dissémination de la graine qui augmente la surface de l'ambroisie devient également le problème. Dans le face-à-face entre l'homme et la renouée, c'est l'individu renoué dans sa corporalité qui est visé. À l'inverse, l'individu ambroisie n'est pas en soi problématique pour l'homme. La cible de la lutte est avant tout la population d'ambroisie. La population comme collectif, un collectif d'êtres difficilement quantifiables et en partie invisibles et surtout mobiles. Pour nous laisser le temps de digérer cette confrontation et cette lutte contre, d'une part, la renouée et d'autre part, l'ambroisie, je voulais vous laisser avec la chanson « Seeds » de Camille. Seeds of love, to seeds of letters, seeds of rust, and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of weakness, seeds of peace, and seeds of hope. Seeds of pace, pine to pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you sell? How can you spoil them? How can you trade them? How can you grow, grow? Seeds of sorrow, seeds of terror, landscape, seeds of devastated corn, seeds of stray. Seeds of misery, seeds of mud and melancholy, seeds of watermelon, seeds of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of straw. Seeds of underneath the summer lies and living, seeds of cold. How can you buy them? How can you sell them? How can you trade them? How can you do so? Ces herbes dont on parle depuis tout à l'heure commencent petit à petit, j'espère, sous vos yeux, à dessiner un environnement aux contours se mouvant au fil des saisons, des cycles, mais au fil également de notre manière d'utiliser cet espace à nous les humains. Et d'ailleurs, ces contours mouvants, ils semblent de plus en plus au fil de ma réflexion. Et des histoires que j'emmène ici dans le studio de Radio Escapade, ils soulignent de plus en plus l'utilisation que les humains ils ont de ces espaces. L'ambroisie n'est pas seulement devenue un polluant biologique pour les humains, auquel elle déclenche des crises allergènes particulièrement sévères. Elle prolifère aussi dans les espaces particulièrement perturbés par les humains, comme les friches urbaines, les bords de route. Ça, c'est les endroits qu'elle aime beaucoup. Tant et si bien qu'elle est reliée dans les imaginaires à la saleté, cette même saleté qui est rattachée à ces marges de nos mondes habités. Pas si loin, hein, le terrain vague, il est parfois juste derrière la maison. le bas-côté de la route, il est juste à côté de la route. C'est ces marges vraiment juste là à côté de nous. Et c'est juste là, c'est même pas des marges, c'est la frontière. La frontière de ces espaces qu'on nettoie et qu'on habite, que l'ambroisie, ce marqueur dont on a parlé tout à l'heure, eh ben, habite. On m'a longtemps dit que l'histoire de l'agriculture, ça avait été celle de la sélection et de l'amélioration des êtres vivants qui sont utiles à notre alimentation, à notre économie, à notre artisanat du textile. Et pourtant, au fur et à mesure qu'on raconte cette histoire, on se raconte qu'il y a un autre versant de l'histoire de la domestication. C'est aussi celle de la domestication involontaire de toutes ces adventices, ces mauvaises herbes, qui envahissent nos espaces de culture, nos bas-côtés, nos terrains vagues. Ces mauvaises herbes que l'on a, malgré nous, sélectionnées et malgré nous, améliorées pour notre plus grand malheur. Et à ce moment-là de la réflexion, je pense que c'est le moment de vous ramener à l'été. Quelque part dans les campagnes nantaises, où j'ai pu passer une journée en compagnie d'Antoine, un maraîcher, à ses heures perdues, et vous verrez un penseur quotidien. Je vous laisse avec les réflexions d'Antoine.
Ta théorie de ce matin à faire du potager, c'est faire une pause en politique. Ah oui. J'aimerais que tu développes c'est un génial. Petit peu.
Ce que je dis, c'est que le maraîchage, c'est un peu la pause ou la respiration idéologique parce qu'en gros, c'est du méga fascisme assumé quand même, quoi. Quand même, je veux dire, le maraîchage, c'est genre, tu sélectionnes. Des races pures. Dans ces races pures, tu sélectionnes que les meilleures. Et même ces meilleures des races pures, il faut qu'ils se comportent comme le parti l'a décidé, quoi. Sinon, tu les mutiles, quoi. C'est quand même... Wow. C'est une saloperie. En plus, j'ai quand même bien peur qu'il soit arrivé via le fumier qu'on incorpore. Voilà. Et puis, une fois qu'il s'installe, tu l'éradiques jamais, quoi. Tu le limites, quoi. Tu le repousses, mais c'est tout, quoi. Qu'est-ce qu'on met d'autre dans le compost maudit ? T'as Renoncule, Rumex. L'avoine à chapelet. Voilà, ça c'est des mauvaises herbes qui peuvent être un peu envahissantes qu'on met là-dedans aussi. Et puis tout ce qui est malade, atteint par le mildiou ou atteint par d'autres trucs, quoi. Tout ce sur quoi on a un doute, quoi.
Ces herbes, donc, volatiles, indésirées mais présentes, parfois comestible, parfois esthétique, mais souvent du coup envahissante. Ces plantes qui se tapent l'incruste, ces plantes qui nous collent au basque, elles inspirent. En tout cas, ce jour-là, elles avaient inspiré Antoine. Et à force de nous coller au basque, de souligner notre utilisation de l'espace, et aussi d'être si sensible aux différents changements de composition des sols, des températures, des qualités de l'eau. Peut-être que en retour, donc ces végétaux qui marquent notre occupation des espaces pourraient peut-être nous donner des informations sur la réelle santé de ces espaces. Finalement, ces plantes annuelles, ces plantes éphémères qui passent et qui colonisent là où elles peuvent, eh bien, c'est peut-être et avant tout un matériel biologique abondamment disponible et particulièrement bavard pour qui saurait les écouter. C'était l'un des objectifs du chantier Pluriversité. Le chantier Lousaouine, je suppose que c'est du breton et que je prononce très mal, mais la traduction, j'en suis certaine, c'était « graines de lutte ». C'était un chantier qui s'est déroulé en octobre 2022 et qui avait pour but d'essayer de développer des protocoles expérimentaux qui permettraient à tout un chacun de pouvoir tester la qualité de l'eau. Et ça, selon plein de questions qui traversent la biologie et qui veut la politiser. Pour vous présenter un peu mieux l'initiative originale des chantiers Pluriversité, eh bien, je vais vous renvoyer avec Anouk, que vous avez entendu au début de l'émission nous parler des graines. On écoute.
Nouche n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message après le bip.
Allô, Anouk ? Allô ?
Ouais, allô.
Allô ?
Oui, salut Fiona.
Ah, ça va ?
Est-ce que toi tu m'entends ? Parce que...
Je t'entends extrêmement
Dis-moi.
Bien.
Trop bien.
Ouais.
Bonjour Anouk, est-ce que tu veux te présenter ?
Bah, je m'appelle Anouk, je fais diverses choses de type chantier, on appelle ça des chantiers reprise de savoir. Ça fait partie d'un nouveau collectif qui expérimente de nouvelles manières de se transmettre des connaissances et des compétences autant théoriques que pratiques sur des questions d'écologie pratique, de subsistance, d'autonomie, de savoir terrestre. Voilà, du coup, je suis dans ce collectif. C'est un appel qui a été lancé il y a à peu près un an, au printemps dernier. Et l'idée, c'était d'appeler les collectifs, les assos, les lieux à faire des chantiers et avec un point de vue très critique sur les institutions scolaires actuelles et l'état de la recherche qui met en compétition, privatise et en fait vide de sa substance les savoirs. Voilà. Et puis en plus, met tous les savoirs dans des cases très étanches. Et donc... À partir de ce constat-là, on a lancé un appel il y a un an et une vingtaine de collectifs, lieux ont répondu et ont fait des chantiers qui se sont ralliés, on va dire, qui se sont reconnus dans cet appel-là. Moi, je fais partie de la coordination de tous ces chantiers.
Toi, en particulier, c'est quoi qui t'intéressait dans le projet là, de Xavier ? Tu dis que du coup, parmi tous les chantiers, c'est celui que toi, tu as décidé de... d'accompagner, quoi.
On se demandait comment on pouvait reprendre ou garder le pouvoir sur nos vies, en fait, et tenter d'en faire un vrai outil, fin, avec des objets vraiment du quotidien qu'on peut trouver dans n'importe quelle cuisine, faire de la chimie, mais vraiment amatrice, tout en ayant des résultats qui peuvent être valides et reconnus par les politiques publiques, par exemple. Du coup, on essayait de déconstruire à la fois les objets, les discours, les imaginaires et les comportements, sans chercher à faire un truc d'expert complètement inaccessible et tout. Donc, c'est un peu politiser la biologie et se la réapproprier, quoi. Enfin, voilà. Et donc on a fait des tests en s'inspirant de techniques d'enquête environnementale. Et il nous a vraiment laissé faire. Enfin, l'idée, c'était qu'on puisse le refaire chez nous après, en fait. Et de se dire qu'on peut mener une enquête soi-même une fois qu'on rentre chez nous et avoir tout le protocole à portée de la main. Et s'auto-former là-dessus, quoi. Sans forcément utiliser des techniques hyper pointues, quoi. Et donc, on a utilisé du matériel comme juste de l'eau déminéralisée, un entonnoir, un tube à hisser.
Comme vous voyez, le réseau dans les Cévennes est toujours d'excellente qualité. Et grâce à cela, j'arrive à faire de magnifiques entretiens avec le monde extérieur et notamment, du coup, les expériences très enthousiasmantes qui se passent à Kouenen Noz, ce biohackerspace qui a établi ses quartiers dans les sous-sols d'une cave à Rennes, mais qui parfois sort et va rencontrer son public, comme à l'occasion de ces chantiers pluriversité et chantiers reprise de savoir, comme ils ont été renommés par la suite, et que Anouk vous décrivait à l'instant. Kouenen Noz, donc là aussi c'est un nom breton et j'espère que je ne l'écorche pas trop, j'ai pas du tout révisé avant de venir. C'est donc un biohackerspace et qui, sur son site wiki.kouenen-noz.fr, se décrit ainsi. Il s'agit d'un atelier dans lequel des manipulations basiques d'initiation à la biologie servent de support aux questionnements et discussions sur des sujets de société. Et un des membres les plus actifs de Kouenen Noz, et qui était du coup très leader, enfin en tout cas source de propositions pour le chantier dont vient de parler Anouk, c'était Xavier, dont vous avez également entendu la voix en début d'émission, vous parlez des plantes qui bougent et qui se déplacent. En espérant que le réseau soit meilleur, je vous laisse avec Xavier et nos discussions.
Re-coucou.
Salut, tu m'entends maintenant?
Ah oui, c'est beaucoup mieux.
Tu m'entends? Est-ce que tu peux parler? Ouais, c'est bon.
Très okay. Bien, alors.
Du coup, comme tu disais, la base de ce truc-là, c'est la pollution des sols et ce drame. Et toi, du coup, tu décides de l'aborder avec de mettre en place un protocole expérimental qui prend comme objet central les graines. Et...
L'origine de ça, enfin moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis confronté à on va dire, une espèce de triumvirat. c'est un, la catastrophe ou le désastre au sens large. Deux, c'est la capacité d'organisation des personnes individuellement et collectivement face à ces lourdes problématiques avant qu'elles arrivent, pendant qu'elles sont là, puisqu'il s'agit d'un événement, et après. Et puis, l'accès aux connaissances et aux moyens techniques de ces personnes. Et donc là, sur les questions de qualité, avant de parler de pollution, mais de qualité de l'eau notamment, et par corollaire de qualité des sols aussi, c'est des personnes que je fréquente ou d'autres que j'exprime, faisons un petit bout de truc ensemble pour qu'on se retrouve à être légitimes, avoir des arguments pour parler de la qualité de notre environnement et notamment de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est souvent le défaut qu'ont les personnes qui essaient de concevoir des tests et des dispositifs, c'est qu'elles le font pas, même si elles le disent des fois, on fait avec, mais elles le font pas ou elles laissent pas faire les premières personnes concernées. Et voilà, je pense qu'il faut retourner cette pyramide qui donne un tropisme de développement de nos rapports aux qualités de l'environnement et de qui a le droit d'utiliser des graines ou des levures ou des bactéries pour faire de l'enquête sur la qualité de l'eau et révéler ce qui est un peu invisible dans notre quotidien, voilà, les petits empoisonnements dont on peut être les premières victimes. L'une des questions, enfin, c'est ce qui revient systématiquement. Déjà franchir la porte d'un hackerspace ou venir dans un atelier enquête environnementale, biologie de cuisine, dans un café de quartier ou dans un petit festival, c'est déjà et c'est un peu Alice au pays des merveilles. Tu vois, il y a la crainte de tomber dans le trou du lapin. C'est quoi? Donc les personnes font déjà preuve de courage et de bravoure en franchissant ces portes. Et qu'une fois qu'elles y sont, elles adorent explorer, elles adorent tester. Les personnes, à chaque fois, disent « Ouais, c'est cool, on l'a fait ensemble dans le petit groupe, mais le refaire par moi-même, chez moi et avec d'autres, je m'en sens pas capable, je m'en sens pas légitime. » Donc vraiment, il y a, tout un travail de discussion, de reprise de pouvoir en petit collectif pour justement faire sauter ce plafond de verre de la légitimité et du droit à pratiquer quelque chose.
Tu veux nous raconter, enfin me raconter ce projet-là sur les graines. Donc
c'était fin octobre, on a fait 8 jours de ce qui s'appelait un chantier dans le cadre des chantiers pluriversité, reprise des savoirs. Et on a fait 8 jours justement sur l'usage des graines pour l'enquête environnementale, notamment liée à l'eau. Donc il y avait un double jeu, double interaction de initiation à mes pratiques en conditions réelles sur le terrain, ce qui permet déjà de faire des chouettes rencontres, de disséminer des savoirs et justement de reprendre des savoirs à des institutions privilégiées et fermées. Je dis ça en petit clin d'œil à ce qu'a pu très bien faire l'atelier paysan, reprendre la terre aux machines. Voilà, il y a une forme de reprise des savoirs à des institutions, à des enfermements de ces savoirs et de ces pratiques. Et donc on a fait ça pendant une semaine et ça a permis aussi d'améliorer la manière dont aujourd'hui on conçoit ce protocole et le type de graines qui peuvent être utilisables pour ce type d'enquête, parce que c'était des personnes qui ne sont pas des enquêtrices et des enquêteurs de l'environnement, c'est des personnes qui ne sont pas biologistes, qui n'ont même pas envie de s'appeler comme ça, et c'est très bien, et c'est même tant mieux.
Et voilà, c'en est fini des présentations des projets de Xavier, enfin pas tout à fait, parce que Xavier il avait commencé bien avant ses chantiers reprise de savoir à travailler sur la possibilité des graines pour faire des bio-indicateurs et permettre aux gens de se réapproprier les moyens de connaître leur environnement, et ben il a pas fini non plus. Et d'ailleurs, il a besoin d'argent. Et je me permets, puisque son appel à financement se finit le 31 janvier, je me permets de le relayer ici, c'est l'occasion. Et puis, les Cévennes ne manquent pas d'espace qui tentent de vivre entre et dans les marges, parfois dans les ruines même de l'industrie minière et de son cortège de métaux lourds et d'eau pas toujours très propre ou potable. Y aurait-il parmi nos auditeurs de ce matin, des personnes qui vivent dans ces marges ou qui s'inquiètent de l'eau qui s'écoule depuis ces marges et qui seraient intéressées par ce projet et qui souhaiteraient lui donner les moyens de se développer et de pouvoir ensuite devenir un outil pour eux, pour s'émanciper de l'expertise? Eh bien, pour tous ces gens-là qui sont tout à fait enthousiasmés par les projets de Xavier, je les invite à aller à sa rencontre sur son site internet. Alors, il s'appelle Xavier Ecoadic, mais je vais devoir vous épeler le site puisque c'est un peu plus compliqué que ça. C'est XAVCC, donc comme XAVCC de Coadic qui commence et qui finit, donc xavcc.frama.io. Et c'est du coup un site qu'il décrit lui-même comme parlant d'environnement, de liberté, de vivant et d'Internet. Et sur LiberPay, eh bien, vous pouvez faire un don pour que ces recherches accessibles et libres puissent continuer. Nous sommes partis avec comme feuille de route les plantes annuelles, éphémères, qui colonisent les espaces, puis en fait colonisent nos espaces, ces plantes qui nous collent au basque, ces mauvaises herbes, et ces mauvaises herbes qu'on se réapproprie pour se rendre plus libre, et en tout cas se libérer des experts, et mieux comprendre l'environnement qui nous entoure. Et on arrive enfin, maintenant, à la fin de cette histoire. Et pour conclure, j'ai envie de conclure avec un peu de poésie. Et je vous laisse avec ce magnifique chant polyphonique de Barat qui s'appelle l'herbo d'agram.
la libertad, l'amor que te espero, guardo la verdad, cal segre l'uriero, lucros del balad, grano la miseria con fluris lublate. Essi la terbero, que es la libertad, l'amor que te espero, guardo la verdad, cal segre l'uriero, lucros del balad, grano la miseria con fluris lublate. Este lo sé l'uno, ne veré en latín, ne perren pas uno, cerca Luca mín. Luce tu sangrino del ser al matin, la beso per uno più di sto canie. Este lo selino, ne per en la fin, ne per en pasino, cerca lu camin. Luce tu sangrino del ser al matin, la beso per uno più di sto canie. Esci la tallero, che è sua libertà, tu viene il duriero, porto la verità. La vita te spero, de cross en balade.
L'herbodagramme, c'est le chien dent en occitan. Et ce chant nous dit « Le chien dent, moi je l'ai cueilli sur la fosse du pauvre mort. Mauvaise graine, moi je l'ai brandie aux quatre horizons de mon champ. Et le grand vent de la misère l'éparpillera sur ma terre. Et dans votre siècle de fier, vienne la paix, vienne la guerre. Moi, je sème le chien dent. » Voilà, c'était « Qui sème le vivant récolte l'orticaire ». Sur Radio Escapade. Bonne journée à vous. Au revoir.
Qui sème le vivant ?
Récolte l'urticaire.
Aïe, aïe, aïe.